Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Une jeune Rome décide de quitter son village enneigé de Roumanie pour changer de vie, pour changer son destin et celui de sa petite fille qu'elle confie à des voisins avant d'aller en Belgique à la recherche d'un mari potentiel, d'un sauveur comme on en trouve, croit-elle, dans les villes riches de la vieille Europe. Rien ne se passera qu'en prévu. Seul à mon mariage, le film belge de Marta Bergman sort au cinéma aujourd'hui. Sa réalisatrice est l'invitée du Réveil culturel en ce mercredi 17 avril. Bonjour tout le monde, bonjour Marta Bergman.
Bonjour.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Et avant d'aborder le propos de votre premier long-métrage de fiction, Seul à mon mariage, qui sort donc aujourd'hui au cinéma, parlons un peu de votre parcours, Marta Bergman. Vous avez réalisé plusieurs documentaires sur la condition des Roms dans l'Europe d'aujourd'hui. C'est un sujet qui vous tient à cœur. Pourquoi ?
Pour plusieurs raisons. Je suis arrivée dans ce village qui s'appelle Clejane, près de Bucarest, avec un ami qui était fou de cette musique, de la musique tzigane. Donc on a été dans ce village, il y a longtemps déjà, et c'est de là que viennent les musiciens du Taraf de Haïdouk, qui sont devenus par la suite très célèbres et qui ont fait une carrière phénoménale. 25 ou 26 ans, ils ont fait le tour du monde. Mais ils étaient pas encore, le groupe n'existait pas en tant que tel. Donc dans le village, il y avait une forte communauté de musiciens extraordinaires, et cet ami qui est devenu leur manager, qui est un type très fantasque, s'est dit, mais il faut faire tourner ces gens, il faut les faire connaître. Mais c'était encore la Roumanie de Ceaușescu. Et puisqu'on parle de discrimination, je voudrais dire que personne n'a voulu nous amener dans ce village. Donc
bon de rappeler, Marta, oui, Bergman, que vous êtes d'origine roumaine, vous êtes belge d'origine roumaine, pas rome, mais roumaine.
Oui, je suis née en Roumanie, j'ai vécu 10 ans en Roumanie, et je suis retournée avec cette amie pour écouter cette musique. Donc c'est via la musique que je suis revenue en Roumanie, si vous voulez.
Et pour parler de cette communauté particulièrement?
D'abord pour écouter la musique. Et puis je me suis dit que ça serait formidable, comme je venais de finir l'INSAS, qui est l'école de cinéma à Bruxelles. J'ai eu envie d'aller faire un film là-bas et de filmer non seulement la musique, mais des gens qui étaient complètement différents de ce que j'avais l'habitude de voir, qui était fantasque, qui était drôle, qui était insolent et qui voyait les choses d'une manière très libre, en fait. C'est ça qui m'a donné envie de raconter des histoires. J'ai vu là-bas un potentiel d'histoire et de personnages et de choses que moi j'avais envie de voir au cinéma, oui.
On en a vu beaucoup de ces personnages dans les films d'Emir Kusturica.
Oui, sauf que moi j'adore le cinéma de Kusturica, mais moi je ne voulais pas faire du folklore. C'est-à-dire qu'il y a chez Kusturica un monde magique qui existe bien sûr, puisque dans « Cela, mon mariage », vous avez vu que les morts et les vivants discutent, voilà, sont toujours en relation. Mais moi je voulais aborder cela d'une manière plus concrète, plus réaliste. Voilà.
Avec une envie de défendre cette communauté, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a tout juste un mois, ici en France, dans la Seine-Saint-Denis, plusieurs personnes ont mené des expéditions punitives contre la communauté rome, après qu'une rumeur se soit propagée, entre autres via les réseaux sociaux, rumeur selon laquelle ces derniers auraient tenté d'enlever des enfants et des adolescents dans les rues de leur ville. Voleurs d'enfants, voleurs de poules, à l'âge du numérique, les préjugés du Moyen-Âge sont hélas toujours vivaces. Donc,
oui, toujours. Et quand on voulait aller dans ce village, donc à Clejane, et on ne savait pas comment aller parce qu'il n'y avait pas de transport pour aller jusque-là, mais les gens en Roumanie nous disaient qu'on était complètement fous, qu'on allait se faire dévaliser, couper en morceaux, enfin exactement le même type d'histoire qu'on raconte maintenant ici, on les a entendus.
Encore hélas, ouais.
Oui, jusqu'à ce que quelqu'un a dit « Ok, moi je vous amène », il avait une vieille bagnole et il est venu avec nous, et on a été vraiment accueillis, on a entendu de la musique, et c'était vraiment super.
Est-ce qu'il y a un côté militant dans votre démarche de cinéaste, Marta Bergman ?
Alors, indirectement, il y a quelque chose de militant, mais ce n'est pas du cinéma à message, c'est vraiment du cinéma à histoire. J'avais envie de faire un cinéma romanesque.
Et c'est un film romanesque, on en parle dans un instant.
Ça c'est pour moi ?
Bruno.
Bonjour.
Je vais apprendre école. Je ne comprends pas.
Bonjour.
Voilà. Tu l'as rencontré sur Internet.
Ah ouais ?
Pervers, va.
Bah. Ghost to Brady.
Am venit să găsesc și eu un bărbat să mă măriți și eu.
Tu parli français, toi?
Cartablă, fenêtre, l'amour. Toujours l'amour.
Au début du film, elle habite avec sa grand-mère et son bébé. Pamela, le personnage de votre film, Martha Bergman, votre film Seul à mon mariage, décide donc de quitter son bled enneigé et désolé, pas loin de Bucarest, pour venir trouver un mari à Bruxelles. Donc voilà, je l'ai dit, elle confie son bébé à des voisins, elle s'en va avec l'espoir de revenir vite sauver sa famille. Mais alors, résumé ainsi, on peut imaginer un mélo social à la Darden Brothers avec une jeune Rome qui va se retrouver dans un réseau de prostitution. Ce n'est pas du tout ça. Et c'est ce qui rend d'ailleurs votre film stimulant, c'est plutôt l'histoire de l'émancipation d'une jeune femme, autant qu'une histoire d'amour entre deux solitudes bien contemporaines. Mais d'abord, parlons de votre personnage, Pamela.
Alors Pamela est née comme ça, un jour ce personnage est venu à moi, je sais pas comment, c'est très mystérieux, mais je pense qu'elle est née de plusieurs rencontres de femmes que j'ai filmées dans ces films dont on vient de parler.
De documentaires donc.
Donc des films documentaires, j'ai rencontré beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, et aussi d'une réalité qui existe en Roumanie, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont envie de partir pour travailler à l'étranger. Tout le monde ne part pas pour se marier, hein. Il y a des gens qui partent travailler, enfin, voilà. Donc, de ce mélange de réalité, de choses que j'ai pu rencontrer, de femmes que j'ai filmées. Et puis, j'ai fait aussi un film qui s'appelle Un jour, mon prince viendra, qui parle de trois femmes, par homme, des femmes, qui ont envie de trouver un mari via des agences matrimoniales et des petites annonces et tout ça. Et là, j'ai vraiment traité le fantasme et le rêve. C'est ça qui m'intéresse. C'est la manière dont on imagine qu'ailleurs, c'est mieux, les hommes sont plus beaux, plus gentils, etc.
Et plus riches, surtout.
Et plus riches aussi. Mais les hommes rêvent de la même façon, parce que pourquoi est-ce qu'ils vont aussi chercher une femme ailleurs? C'est parce que, sans doute, il existe ce fantasme des deux côtés, et quand ils se croisent, ça marche pas forcément. Donc Pamela est arrivée comme ça, j'avais envie de voir ce qui se passe si je lance ce personnage dans l'inconnu, dans la nuit, dans l'aventure. Et puis autour de ça, avec mon co-scénariste, on a construit une trajectoire, une histoire et les autres personnages autour d'elle. Mais d'emblée, dès le début, Pamela vivait avec sa grand-mère et sa fille, avec le chaînon manquant, la mère. Donc ça, c'était les prémices de l'histoire. Et je voudrais ajouter qu'à la fin du film précédent, qui est un documentaire, qui s'appelle Cléjagne, une jeune femme part à l'étranger. Elle part travailler dans des bars. Et ses parents la regardent partir dans la nuit dans une voiture avec deux autres filles. Et je me suis toujours demandé ce qu'elle a... Enfin, tout le monde comprenait plus ou moins ce qu'elle allait faire, mais c'était très tabou, personne n'en parlait. Et j'avais envie d'imaginer la trajectoire de cette jeune femme après ce moment où cette voiture l'amenait dans la nuit. Donc Pamela est née de tout ça, en fait.
Sauf que Pamela va avoir une autre vie. Vous lui donnez la chance de pouvoir s'émanciper.
C'est pour ça que c'est une héroïne de fiction, et une héroïne, une femme romanesque, et pas vraiment un personnage réel. Parce que je pense qu'une femme, une vraie Pamela, enfin une Pamela plus réelle, aurait fait plus de compromis, disons.
Elle commence d'ailleurs par des compromis, Pamela. Mm-hmm. C'est petit à petit qu'elle va prendre son destin en main.
Voilà, au début, elle joue. C'est pas une femme qui joue, elle est toujours très intègre et très... Au début, elle est comme elle imagine qu'une épouse doit être, voilà.
C'est-à-dire soumise.
Soumise, et elle joue à l'épouse, elle joue ce qu'elle imagine qu'elle doit être. C'est ce qu'on lui a toujours enseigné. C'est dans sa culture traditionnelle, une femme est d'abord une épouse. C'est ce qu'elle imagine, et elle essaye. Mais ce que j'aime bien, et j'ai voulu aussi créer un personnage drôle, c'est qu'elle n'y arrive pas, elle fait tout à côté, elle a un côté clownesque.
Mais
elle essaye. Oui.
Mais elle va arriver à s'en sortir, c'est-à-dire après tout un passage où on se pose des questions, est-ce qu'on va retomber dans les clichés ou dans la fatalité, hein, parce que c'est les clichés, hélas, se nourrissent aussi des faits réels.
Oui, et c'est une trajectoire d'émancipation, mais aussi pour Bruno, donc l'homme qui l'accueille, qui grâce à cette femme, au contact de cette femme... qui met du bordel dans sa vie, quoi. Je pense qu'il va changer aussi, il va aussi s'émanciper d'une certaine manière. Il va être moins coincé.
Moins seul, surtout.
Moins seul, oui. Il devient plus sexy au fur et à mesure. Donc, il va s'émanciper de ses parents. Donc, c'est une double émancipation.
Comment vous avez tourné ce film? Est-ce que vous l'avez tourné avec l'accord des comédiens? Parce que Pamela, elle est tout à la fois le personnage d'une fiction, mais on a l'impression qu'elle incarne aussi sa communauté.
Alors, on a fait un casting. J'ai vu beaucoup d'actrices roumaines, très très bien, parce que dans le cinéma roumain a des acteurs et actrices formidables. Des femmes comme un agent de casting m'a proposé une série de femmes, de jeunes femmes qui correspondaient au rôle, puisqu'il a lu le scénario, bien sûr. Elles étaient toutes brunes, ça devait faire Rome. Et puis quand j'ai vu Alina Sherban, j'ai eu... Elle est Rome, c'était la seule... Non, c'était pas la seule Rome d'ailleurs des actrices que j'ai vues, mais il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Et elle répétait dans un théâtre, elle répétait une pièce à l'occasion de l'émancipation des Roms, parce que les Roms étaient esclaves. Donc à l'occasion de... Je veux pas dire de bêtises, mais il y avait un anniversaire lors d'une émancipation. Elle jouait un spectacle dans une ville de province qui parlait de ça. Donc elle était très investie dans ce spectacle et on a roulé des heures pour aller la retrouver. Elle était en répète et je l'ai vue arriver avec cette énergie de Pamela dans le couloir d'un théâtre un peu poussiéreux. Et j'ai compris en la voyant avec son sac à dos et sa démarche très décidée. Et je me suis dit, cette fille, elle va tenir le film sur ses épaules, quoi.
Vous avez discuté de quoi? Est-ce qu'elle avait besoin d'être rassurée?
Alors on a discuté, ça a très mal commencé, ça a commencé par une dispute monstrueuse. Je me suis dit, je vais jamais la revoir. On a été prendre un café, moi, ma productrice et l'agent de casting roumain. Et ils ont commencé à discuter de la pièce qu'elle tournait et de l'esclavage des Roms. Et lui, il a eu une maladresse qu'il n'a pas réussi à rattraper. Il a essayé d'expliquer un terme juridique que c'était pas vraiment de l'esclavage, mais du servage. Et elle s'est mise dans une colère. Donc pendant une demi-heure, elle a engueulé ce gars qui essayait, au plus il essayait de rattraper, au plus il s'enfonçait et au plus elle s'énervait. Donc on n'a pas du tout discuté du film. Si elle savait juste qu'on venait de l'étranger et qu'on vous faisait un casting. Mais elle était tellement en colère. Et pendant qu'elle engueulait ce gars, moi, je prenais un café, je me disais, il faut cette fille, mais je sais pas comment je vais la rattraper, quoi.
C'est ma Pamela.
Oui, c'est elle, mais elle va s'en aller, elle voudra plus de nous. Et elle est partie parce que la répétition reprenait. Et j'ai dit à ma productrice, écoute, il faut aller la voir, il faut pas la laisser passer, quoi. Et c'était comme ça.
Est-ce qu'elle a demandé d'avoir un droit de regard? Parce que elle incarne la communauté rome dans votre film. Mmh.
Alors, elle n'a pas demandé de droit de regard. Elle a lu le scénario, bien sûr. Elle l'a lu à sa mère, qui était la caution. Parce qu'après, elle m'a dit, oui, je l'ai lu à ma maman. Je l'ai raconté à ma maman. Elle a pleuré. Donc, c'était bon. On avait la caution de la maman. Elle a vu que ce n'était pas cliché. Et avec Alina, c'était une négociation permanente durant le travail avant et durant le tournage. C'est une femme très forte, hein, elle veut diriger. C'était son premier rôle au cinéma et c'est vrai ce que vous dites, c'est que sa préoccupation première était l'image que elle et la communauté rome allaient donner dans ce film.
Et comment on peut la comprendre, non ?
Oui, tout à fait, mais moi j'avais pas envie de faire d'être le porte-parole. Moi j'avais envie de raconter l'histoire de Pamela. Elle est très intelligente, donc elle a très bien compris que pour que ce film touche, Pamela devait avoir des qualités, mais aussi des défauts, qu'elle soit humaine. Et sur ça, on était d'accord.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Întoarce-te, o, dadmale, Margareto, întoarce-te. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Întoarce-te așa la mine, amândoi s-o frigem bine. Dum dacă dumă lagă, dai dumă la la. Dum dacă dumă lagă, dai dumă la la. Dai dumă lagă, dai dumă la la. Rec dacă dumă lagă, dai dumă la la. Voilà. oase la gagicile frumoase. Hai dumba 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 și vin de cu trei leciungă. Hai dumba 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 și vin de cu trei leciungă. O da dumă la la dum dacă dumă la gada dumă la la. O da dumă la la dum dacă dumă la gada dumă la la. Reg dacă dumă la gada dumă la la dum dacă dumă la gada dumă la la. Da dumă la gada dumă la la. Reg dacă dumă la gada dumă la la. N-am desfacă, sunt brunete, tita, mai par o talento. Ai don't da 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 da.
Dumbala, Dumbala, c'est en 1998, les Tarafes de Haïdouk, et c'est pas par hasard qu'on passe cette chanson ce matin, alors qu'on vous reçoit, Martha Bergman, réalisatrice de Seul à mon mariage, qui sort aujourd'hui, puisque la chanteuse du Taraf de Haïdouk est dans votre film.
Oui, c'est
à
Vierig.
Double titre. Elle joue le rôle de la grand-mère.
Oui.
Excellente. Et puis, elle chante aussi dans votre film. Elle signe une partie de la bande originale de votre film.
Voilà, donc Viorica, elle est la grand-mère du film, oui. Donc, j'ai rencontré Viorica quand j'ai rencontré les musiciens du Taraf, puisqu'elle faisait en partie du Taraf. Enfin, c'est une histoire très compliquée, je vais pas me lancer là-dedans. Mais je crois que je suis tombée amoureuse de Viorica. Elle est incroyable, elle a un visage, un physique, une énergie, une voix. C'est une sorte de Billie Holiday. Parce qu'elle est aussi assez tragique, enfin, sa vie est tragique, elle fume, elle boit, enfin voilà.
Ça fait quand même quelques années que vous êtes très proche de la communauté rome de votre pays d'origine, la Roumanie. Est-ce que vous avez l'impression que leurs conditions se sont améliorées ou pas?
Donc moi je connais ceux de les Roms, les musiciens de Clejane, je ne connais pas d'autres. Et ils sont devenus très proches. Maintenant, j'ai revu certains d'entre eux à l'occasion du tournage, parce que Viorica joue le rôle de la grand-mère. Caliou joue le violon sur la bande originale. Et c'est eux que j'ai pu connaître pendant de longues années, de plus près. Alors leurs conditions à eux se sont fortement améliorées parce qu'ils ont beaucoup joué et ils ont fait des tournées internationales, ils ont bien gagné leur vie. Alors c'est vrai qu'au sein du groupe, il y a des disparités. Certains dépensent plus que d'autres. Je pense qu'il y a une société civile qui est en train de naître et que, pour parler de la musique tzigane est devenue très à la mode à un moment donné. Donc, tout un mouvement, que ce soit hipster ou très à la mode, a commencé à les apprécier, ce qui n'était pas du tout le cas au sommet du Taraf de Haïdouk. Ils n'étaient pas écoutés en Roumanie jusqu'à il y a quelques années. Et puis, il y a eu un effet de mode. Donc maintenant, Viorica et d'autres musiciens de l'ex-Taraf jouent dans des bistrots et ils continuent à une vie là-bas. Mais de manière générale, je ne sais pas si la condition des Roms s'est améliorée. Moi, je vis à Bruxelles et il y a énormément de Roms, de Roumanie, je les entends, qui vivent à Bruxelles, qui partent. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question.
Et le regard des Belges vis-à-vis des Roms, est-ce qu'il a évolué, d'après vous, ou pas, ou peu?
Alors, je pense que pour les Belges, et de nouveau, je n'ai pas envie de trop généraliser, pour les gens, disons, les Roms ou Tziganes, c'est ceux qui m'ont dit. Parce que ceux qui sont intégrés, c'est-à-dire, et il y en a beaucoup, dont les enfants vont à l'école, moi je les reconnais parce qu'il y a quelque chose dans l'attitude, dans la langue, dans la manière d'être, moi je les repère. Mais les gens, les Belges autour de moi, ils ne les voient plus parce qu'ils font partie
de la communauté,
des gens qui prennent le tram, dont les enfants vont à l'école, qui ont un cartable, ils ne se voient plus. Et je pense que malheureusement, pour la majorité des gens, les Roms continuent à être ceux qui m'ont dit ou qui font la manche. et qui existent également. Il y en a beaucoup, malheureusement, voilà.
En Roumanie, est-ce qu'ils vivent mieux aujourd'hui dans une Roumanie européenne, débarrassée du communisme, ou ils n'ont pas changé de statut depuis Ceausescu?
Alors, nous, on a tourné dans un village à majorité rome, qui est le village d'origine de la famille de Alina. C'est pas une pauvreté extrême, évidemment. Parmi eux, c'est une communauté extrêmement multiple. On peut pas dire les Roms. Il y a des gens qui travaillent dans le bâtiment, il y a des gens qui viennent travailler à l'étranger, il y a des gens qui se débrouillent. Mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de laissés pour compte.
Le film est sorti en Belgique, Seul à mon mariage.
Oui, le film est sorti.
Comment il a été accueilli?
Il a été très bien accueilli. Il n'est pas encore sorti en Flandre. Parce que Tom Vermeer, l'acteur, il est flamand, donc il va sortir en Flandre. Il est très connu, c'était son second rôle au cinéma. Moi, je l'ai vu dans un film magnifique qui s'appelle Belgica, de Felix van Groningen. Et Tom, il tourne beaucoup, il fait du théâtre, il est musicien.
Donc, bon accueil du public?
Très bon accueil, oui. Du moins, les gens qui m'en ont parlé étaient très positifs, oui.
Pourquoi être passé par la fiction pour ce dernier film, Martha Bergman?
J'avais envie d'écrire une histoire, ouais. J'avais envie d'écrire cette histoire. Donc pour l'écrire plus librement que de chercher les personnages qui correspondraient à ça, j'ai jamais vu les choses dans un terme, tiens, maintenant je vais faire une fiction. J'ai commencé à l'écrire et naturellement c'est devenu un film avec des acteurs où il a fallu chercher des acteurs, des décors. Mais pour moi, ça a toujours été un mélange. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu intégrer dans le film des gens qui sont devenus des acteurs et m'inspirer du documentaire, du réel. Donc, faire quelque chose de mixte entre les deux. C'était ça le projet.
Et vous avez d'autres projets, Martha Bergman?
Peut-être pas lié à la communauté rome, mais sans doute lié à l'esprit. C'est un projet de fiction, puisque il faut définir les choses, que je suis en train d'écrire sur des gens aussi qui partent, des gens qui sont sur les routes et qui cherchent à aller ailleurs. Ça doit être un truc qui m'obsède. C'est quelque chose qui m'interpelle, des gens qui essayent d'aller ailleurs, de changer leur destin, de quitter, peut-être parce que c'est mon histoire. C'est la meilleure réponse que je pourrais donner.
Vous êtes c'est l'histoire d'une exilée, d'une famille roumaine exilée en Belgique?
Voilà, exilée, c'est peut-être un grand mot, puisque pour moi, exilée, c'est vivre dans des conditions très difficiles, comme les gens qui malheureusement sont maintenant à Paris, dans la rue. Pour moi, c'est ça, exilée. Et je n'ai pas connu une existence si dure. Donc je peux pas dire que j'étais exilée en Belgique. Mais c'est vrai qu'on est parti de la Roumanie communiste.
Pour des raisons politiques, je suppose, ou pas forcément?
Alors, mon père est parti avant nous, c'est toute une histoire, parce que tout le monde voulait partir, il y en a qui l'ont fait. Il est parti pour vivre différemment, pour avoir plus d'argent. Je veux pas le glorifier, je pense pas que c'était des raisons uniquement politiques. Pour vivre mieux, sans doute. Quand moi, je suis venue en Belgique avec ma mère et ma grand-mère, on avait des conditions qui étaient déjà assez convenable. On n'a pas vécu dans la misère ou j'ai pas vécu une condition d'exil. La seule chose qui pourrait ressembler, c'est que au moment où on est venu, on pouvait plus retourner. On ne savait pas que le communisme allait tomber. Donc c'est vrai qu'il y avait une coupure entre la Belgique, entre l'Ouest et l'Est. C'était le rideau de fer. Donc on ne savait pas si on pourrait retourner un jour, ne fût-ce que pour voyager. Dans ce sens-là, en effet, c'était une forme d'exil. Oui.
Mais ce qui vous attire chez les Roms, si j'ai bien compris, Martha Bergman, c'est le fait qu'ils soient les derniers nomades, les derniers à pouvoir continuer à vivre librement ou à essayer de voyager librement.
Une partie d'entre eux étaient des nomades. Il y a très peu de nomadisme actuellement. Le communisme les a sédentarisés plus ou moins de force. Et les musiciens, parmi les premiers, ont été sédentarisés pour des raisons historiques. C'est qu'ils appartenaient aux petits seigneurs, aux boyards du coin. Ils faisaient partie de sa propriété. Donc ils étaient sédentaires depuis le 19e siècle, je pense. Et c'est des gens qui restent plutôt attachés à leur maison. Ce ne sont pas des grands voyageurs, en tout cas pas ceux que je connaisse. Ceux qui voyageaient, les voyages étaient aussi liés à leurs métiers, les métiers ancestraux, mais qui ne pratiquent plus. Les chaudronniers, les gens qui remplumaient les matelas, enfin tous ces métiers traditionnels étaient liés au nomadisme parce qu'ils allaient de village en village pour réparer les chaudrons, faire des bijoux, remplumer les matelas, etc.
Merci d'être venu aujourd'hui dans le Réveil culturel pour nous parler de votre film « Seul à mon mariage » qui sort au cinéma. Vous pouvez, merci beaucoup Martha.
Merci à vous.
Bergman, vous pouvez bien sûr écouter cette émission en passant par la page du Réveil culturel où l'écoute en ligne et l'abonnement et podcast sont à votre disposition en quelques clics seulement. La coordination du Réveil culturel est assurée par Corinne Amar, assistée par notre stagiaire Maëlle Ray, réalisée par Vincent Abouchard avec à la technique ce matin Valérie Lavalard. On se retrouve demain. Bonne matinée sur France Culture.